Divergence FM, l'interview.
Alors bonjour Boris Chenot.
Bonjour.
Alors vous êtes déjà venu à Divergence, mais là vous venez aujourd'hui pour nous présenter en fait un ouvrage. C'est un livre, un ouvrage, un essai, qui est paru aux éditions Ellipse.
Oui.
Et ça s'appelle 1905, l'année miraculeuse d'Einstein. Oui. Alors votre ouvrage va traiter évidemment de cette année. On dit qu'il y a des années extraordinaires, des années mirabilis. Hein, n'est-ce pas ? Et celle-là, 1905, pour vous, c'en est une.
Oh oui, c'en est une, et c'est pas que pour moi, hein. C'est dans la littérature de l'histoire des sciences, c'est quand même une des années les plus, si ce n'est l'année la plus miraculeuse pour la physique et les sciences en général.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Un jeune physicien que personne connaissait, en gros, hein, qui s'appelle Albert.
Oui, Albert, un jeune Albert, qui après deviendra un peu la figure emblématique de tous les scientifiques, y compris dans la culture pop.
Ouais.
Donc,
ouais.
Il a 26 ans, il vient de sortir de l'école polytechnique de Zurich, et il est embauché à l'office des brevets de Berne.
De Berne, donc c'était un jeune physicien qui veut faire ses preuves, etc. Et il publie 4 articles, je crois.
Oui, c'est un beau travail. Là. Dans cette année 1905, en fait, il produit énormément d'articles, notamment des articles de revue, ce qui montre que même s'il est à l'office des brevets, il se tient parfaitement au courant des avancées des sciences. Il fait des revues sur notamment la physique atomique qui est en train d'émerger, la physique statistique. Mmh. Et il commet ces 4 articles, 4 coups de tonnerre dans un paysage qui paraissait tranquille de la physique et 4 révolutions.
Oui, c'était la visite habituelle, celle que tout le monde connaissait, hein, Newton et compagnie, c'est ça ?
Exactement, Newton, Maxwell, la thermodynamique. Mmh. Et lui, il arrive et il chamboule pas mal de choses, et notamment 2 champs énormes qui sont assez connus, mais qui est bon toujours de répéter. La découverte de la relativité restreinte, la façon de changer l'espace et le temps en fonction des observatrices et des observateurs. Et puis, il ouvre la porte du monde quantique.
Alors, le monde quantique que vous connaissez, puisque vous êtes vous-même agrégé de physique, hein, faut le rappeler, enseignant-chercheur à l'Université de Montpellier et au CNRS.
Alors en fait, c'est une unité mixte, ouais,
c'est ça.
Je suis université, mais le labo est les deux. Ouais.
Et les deux, et puis vous êtes spécialiste de métrologie quantique.
Exactement, nous on s'attache à essayer de définir les unités et de faire des mesures des effets quantiques dans le domaine de l'électricité. Et donc on essaye de voir comment on peut rattacher la définition de l'ampère, la définition de l'ohm, enfin les unités électriques aux constantes fondamentales et donc à des phénomènes quantique.
Ce qui est nouveau, ça aussi, ça fait pas très longtemps qu'on se penche sur ce genre de recherche, à part 1905 bien sûr.
Oui bien sûr, non mais en plus l'application elle est assez intéressante parce qu'au lieu de dépendre comme au début, mais au début c'était obligé, hein, quand à la Révolution française on définit les nouveaux systèmes d'unités, on s'attache à des objets, donc il y a l'objet du mètre.
Le mètre étalon, comme on disait, voilà.
Et maintenant l'objectif.
Le poids, le 1 kilo.
Voilà, avec le kilo qui est en platine et qui est toujours stocké à Sèvres, au Bureau international des poids et mesures. Et donc là, l'idée, c'est de définir les unités à partir de phénomènes physiques fondamentaux, de physique quantique notamment, et à partir des constantes fondamentales comme la constante de Planck, la charge de l'électron, et ainsi de suite.
Oui, alors donc ça change beaucoup de choses, hein, quand même. Alors, pour nous, les profanes, vous avez écrit en fait un livre qui va nous expliquer un peu cette année et qui va montrer à quel point c'était important comme révolution, hein, comme évolution. Mais...
C'est une sacrée révolution, en fait, parce qu'en fait, dans un premier article, qui est l'article de mars 1905, il ouvre la porte de la physique quantique qui avait déjà été entrebâillée par Max Planck en 1900 avec son explication du rayonnement du corps noir. Et lui, il explique un effet qui était impossible à expliquer avec la physique classique, l'effet photoélectrique. Un effet photoélectrique qu'on utilise dans plein de toits, dans plein de charpentes pour pouvoir produire l'électricité à l'heure actuelle. Et c'est pas un effet anodin. Et donc, il montre que la lumière est constituée de petits grains, des grains que Lewis baptisera quelques années plus tard les photons, et qui permettent d'expliquer ce phénomène étrange mais magnifique d'effet photoélectrique produit à l'électricité à partir de la lumière.
Et les photons, en fait, hein, c'est ce qu'on dit. Alors, donc, votre livre, c'est très facile à lire. Hein.
Oui, l'équation, par E égale MC2, bien sûr, forcément.
C'est la seule équation qu'on ait, mais celle-là, ouais. On la connaît tous, même si on ne sait pas très bien ce que ça veut dire.
Normalement, avec le livre, vous devriez savoir.
On devrait savoir. Ouais. Quand même, on sait qu'il y a eu l'introduction aussi du phénomène du temps.
Hein. Exactement.
C'est-à-dire qu'avant, on était un peu figé, que la physique était un peu figée. Et là, avec Einstein, on a la notion de temps qui va intervenir tout le temps. Et comme vous disiez aussi, l'observateur, ça dépend où est-ce qu'il se place.
Exactement. En fait, ça, on savait déjà que les mouvements étaient relatifs. On le sait depuis Galilée, par exemple, lorsque vous êtes sur un bateau ou en haut d'un mât, vous faites tomber une pomme. Si vous êtes sur le bateau, vous voyez un mouvement vertical. Mais si vous êtes sur le quai et que le bateau est en translation, vous voyez un mouvement parabolique.
Oui, parce
donc
que...
le fait qu'on ait un mouvement relatif, ça, c'est quelque chose qui était connu.
Oui, c'était connu, mais lui, là, il met en évidence et puis il met en équation.
Oui, ça c'était connu, mais par contre, ce qui n'était pas connu, c'était que lorsqu'on a un déplacement qui est proche de la vitesse de la lumière, à ce moment-là, les choses changent. Les choses changent au point qu'on change complètement la géométrie spatio-temporelle, de la même manière qu'on change la géométrie. Quand on est dans cette pièce-là, on a une géométrie qui peut être vue comme la géométrie euclidienne.
Oui.
Vous avez un triangle, la somme des angles fait 180 degrés. Mais par contre, si vous prenez de l'altitude et des distances et que vous faites la géométrie sur la sphère, là, vous avez des triangles qui ont une somme qui fait pas 180 mais 270 et ainsi de suite. Donc on change les règles du jeu, et là c'est ce qu'a montré Einstein. Lorsqu'on va vite, c'est-à-dire lorsqu'on a une vitesse qui est proche de la vitesse de la lumière,
300 000 km à la seconde, hein,
voilà.
C'est ça.
En fait, c'est une constante, tous les observateurs voient la lumière à cette vitesse, c'est une constante fondamentale. Il n'y a pas de composition des vitesses comme lorsque vous êtes sur l'autoroute. Lorsque vous êtes sur l'autoroute, la personne de devant est à 130, vous êtes à 130, vous êtes à vitesse nulle l'un par rapport à l'autre. Ceux qui arrivent en face sont à 260 km heure par rapport à vous. Et bien là, en fait, il n'y a pas de composition des vitesses pour la lumière. Et du coup, ça change tout. Ça veut dire qu'il faut abandonner pas mal de choses, notamment le caractère absolu du temps, ce que vous disiez tout à l'heure, le caractère absolu de la longueur et aussi le caractère de la simultanéité. Lorsque je suis dans un train, lorsque je vais entendre, par exemple, les deux claquements de doigts du contrôleur, moi je vais les entendre de manière simultanée. Mais si je vais très proche de la vitesse de la lumière, quelqu'un qui est sur le quai, en supposant qu'il puisse entendre des claques, entendra plutôt un décalage.
Voilà.
Et ça, c'est quelque chose qui est complètement nouveau.
C'est pas là. Et bien, écoutez, il nous reste à rappeler votre ouvrage et surtout à donner envie aux auditeurs d'aller le lire. 1905, l'année miraculeuse d'Einstein. Dans un petit article, on mettra les liens pour pouvoir accéder au site de l'édition Ellipse, par exemple. Et puis aussi, on mettra quelques informations sur vous et on mettra quelques mots d'introduction de votre livre, si vous voulez bien.
Avec plaisir.
Voilà.
Merci
pour l'invitation. Et puis on rappelle qu'à Divergence, vous avez participé très récemment à une émission avec la Marseillaise Hebdo, qui dure une heure. Donc c'est bien entendu encore sur le site de Divergence. Il suffit de cliquer sur un lien que je mettrai aussi pour pouvoir vous réécouter pendant une heure.
Ouais.
Bon, merci Boris Chenot.
Merci pour l'invitation.
Et à bientôt pour d'autres aventures spatio-temporelles.
Merci.